Merci d'écouter Radio France Internationale, midi et demi en temps universel. Il est 14h30 à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Kantner, bonjour à toutes et à tous. En Tanzanie, l'opposant Tundu Lissu, devant la justice ce matin, arrêté il y a plus d'un mois, il est notamment poursuivi pour trahison, un crime passible de la peine de mort. La Cour internationale de justice de La Haye se penche cet après-midi sur un litige qui oppose le Gabon et la Guinée équatoriale. Les deux pays revendiquent la souveraineté sur trois îles inhabitées, mais potentiellement riches en pétrole. Une circulation alternée pour mettre fin aux embouteillages qui paralysent Kinshasa. La moitié des voitures interdites de rouler certains jours selon leur plaque d'immatriculation. Ces mesures envisagées par les autorités locales ne manquent pas de faire réagir. Et puis les sports du football, le stade d'Abidjan est champion de Côte d'Ivoire. Un nouveau sacre 56 ans après le dernier. L'opposant tanzanien Tundu Lissu a donc comparu ce matin devant le tribunal de Dar es Salaam. Arrêté le mois dernier, le président du parti Chadema doit répondre de deux chefs d'accusation. Publication de fausses informations en ligne et trahison, ce dernier crime étant passible de la peine de mort. Gaël Lalex, ce matin, à peine arrivé dans la salle d'audience, Tundu Lissu s'est montré plutôt combatif.
Oui, en effet, ne vous inquiétez pas, nous parviendrons à nos fins. C'est ce qu'a lancé Tundu Lissu à peine arrivé dans la salle d'audience. Sur son t-shirt, on peut lire « Pas de réforme, pas d'élection ». L'opposant et son parti demandent depuis longtemps une réforme du système électoral. Chadema a d'ailleurs été exclu des élections générales à venir en octobre puisque le parti a refusé de signer le nouveau code de conduite électorale. À plusieurs reprises, Tundu Lissu a exprimé son intention de bloquer ce scrutin, ce qui lui a valu son arrestation. Il faut rappeler, Nicolas, que depuis son indépendance, jamais la Tanzanie n'a connu d'alternance au pouvoir. Les dernières élections locales ont encore plébiscité le parti présidentiel.
Alors, cette affaire est très suivie au Kenya voisin. Plusieurs défenseurs des droits de l'homme kenyans ont tenté de venir en Tanzanie, mais ils se sont vus bloqués à l'aéroport de Dar es Salaam.
Oui, les derniers en date, ce sont Hussein Khalid, avocat kényan et président de l'organisation Vocal Africa, Hanifa Adan, une autre militante très connue ici, et Willy Mutunga, ancien président de la Cour suprême kényane. Tous les trois entendaient assister à l'audience en tant qu'observateurs. Après plusieurs heures, bloqués à l'aéroport et un interrogatoire, ils ont fini par récupérer leur passeport. Hussein Khalid vient d'annoncer sur X leur expulsion imminente par le prochain vol pour Nairobi. Le ministre des Affaires étrangères kényan avait pourtant demandé ce matin sur X la libération de l'ancien président de la Cour suprême, rappelant les accords de libre circulation qui prévalent dans l'espace de la communauté des États d'Afrique de l'Est.
Gaëlle Alex, correspondante de RFI en ligne de Nairobi. C'est l'une des capitales africaines des embouteillages. Kinshasa, 17 millions d'habitants estimés et coutumière des bouchons monstres. Pauline Azidi, voilà que les autorités envisagent de nouvelles mesures pour mettre un terme à ce fléau, mais certaines d'entre elles alimentent déjà une intense polémique.
Oui, c'est un communiqué qui est apparu sur les réseaux sociaux vendredi qui a lancé cette polémique. Un communiqué des autorités kinoises qui n'est pas signé, mais qui évoque deux nouvelles décisions. L'interdiction de la circulation des poids lourds dans la ville entre 5h et 22h et surtout une circulation alternée pour les voitures selon le numéro des plaques d'immatriculation. Pour résumer, hein, les plaques impaires pourraient circuler les lundis, mercredi, vendredi et dimanche. Les plaques paires mardi, jeudi, samedi et dimanche aussi. Ce communiqué, il a beaucoup circulé, il a beaucoup été commenté, à tel point que le cabinet du gouverneur a fait une mise au point hier soir évoquant, je cite, un projet qui doit être discuté dans la journée. Et effectivement, selon une source proche du dossier, la réunion est en cours, réunion entre les autorités de Kinshasa, donc le gouverneur Daniel Bumba, et les autorités nationales. A priori, il y aurait au moins le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. Une autre source au gouvernorat provincial confie que le deuxième point, cette circulation alternée, est loin de faire l'unanimité. En effet, dans une ville où l'offre de transport en commun est assez faible, il est difficile d'imaginer empêcher les usagers de prendre leur voiture. Il y a très peu de bus, peu de transports scolaires, peu de trains. C'est irrationnel, estime un proche de la présidence, qui ajoute que cette mesure sera en plus compliquée à faire appliquer.
Pauline Azidi, en direct de Kinshasa. Au Tchad, l'ancien Premier ministre Succé Masra est toujours en garde à vue. Le chef du parti Les Transformateurs a été interpellé vendredi matin, il est accusé d'incitation à la violence pour un message audio diffusé avant le massacre perpétré à Mbandakao dans le sud du pays la semaine dernière, au cours duquel plus de 40 civils avaient été tués. Victor Moria, les avocats de Succès Masra, assurent que cet audio est un montage.
Selon les autorités tchadiennes, c'est un audio diffusé par Succès Masra qui serait à l'origine du massacre du village d'éleveurs de Mbandakao près de Ben Aïmar dans la province du Logone occidental. La défense du président des transformateurs évoque une manipulation à l'aide de l'intelligence artificielle d'un ancien audio datant de 2023 et demande sa libération immédiate. Pour Avoksouma Achebenou, président du parti Les Démocrates, membre de la coalition GCAP, cette affaire s'inscrit dans une série de menaces et d'intimidations à l'encontre des opposants politiques.
Le système veut nous faire peur. Ce qui s'est passé avec Success Masra n'a absolument rien à voir avec les événements de Ben Aïmar. Donc ça veut dire que quelque part, ils ont déjà tout un plan pour pouvoir neutraliser qui peut pouvoir les gêner.
De son côté, le parti au pouvoir, le Mouvement Patriotique du Salut, assure que la justice fait son travail selon le droit tchadien. Abdel Nasser Garboa, porte-parole du MPS.
C'est une affaire purement judiciaire, conduite par la justice tchadienne à travers donc le parquet. Les opposants aujourd'hui essaient de se faire entendre et ils trouvent toutes sortes de raisons pour faire l'intéressant. Donc moi je trouve que c'est vraiment léger comme accusation.
Depuis vendredi, Success Masra est en garde à vue à la coordination de la police judiciaire. Une délégation a pu lui rendre visite dans le week-end. Il attend désormais d'être auditionné par le juge d'instruction. Victor Morian Jamena, RFI.
Beaucoup de questions encore après le départ de la famille Bongo pour l'Angola. Après leur discrète sortie de prison, l'épouse et le fils du président déchu Ali Bongo, Sylvia et Noureddine, ont été exfiltrés jeudi soir en compagnie de l'ancien président vers Luanda. Resteront-ils sur place? Quel rôle a joué le président angolais João Lourenço? Des éléments de réponse avec Passion Ligodi.
Selon une source diplomatique, c'est bien le président angolais qui a joué un rôle déterminant, lui qui veut s'imposer comme un acteur clé dans les résolutions des crises sur les continents, lui dont les rapports n'étaient pourtant pas si chaleureux avec Ali Bongo, mais au sein de l'Union africaine. Plusieurs chefs d'État demandaient la libération de Sylvia et Noureddine Bongo, condition posée par Ali Bongo pour quitter le pays. Ali Bongo restera-t-il en Angola? Pour l'heure, aucune certitude. Le choix de Luanda aurait été dicté par l'urgence de quitter le Gabon. Selon plusieurs proches de la famille, la capitale angolaise n'est pour l'heure qu'une étape. Comme destination finale, certains évoquent le Maroc, d'autres plutôt la Grande-Bretagne. Une partie de la famille vit à Londres. Et selon une autre source, des démarches seraient même déjà avancées. Un membre de la famille précise que la destination finale sera celle où pourra être assuré un soutien médical adapté.
La Cour internationale de justice de La Haye se penche cet après-midi sur le litige qui oppose le Gabon à la Guinée équatoriale. Ces deux pays revendiquent la souveraineté sur trois îles inhabitées, Mbagné, Cocotier et Konga. Wely Diallo, l'enjeu, c'est le potentiel pétrolier de ces trois îles.
Oui, puisque les trois îles se trouvent dans la baie de Corisco, une zone qui est riche en pétrole. Plus au nord, on retrouve les champs pétroliers du Nigeria et au sud, les gisements gabonais et congolais. La potentielle présence d'or noir autour de ces îlots est donc l'enjeu principal du conflit. À l'origine, une convention franco-espagnole qui date de juin 1900 fixe les frontières entre la Guinée équatoriale et le Gabon. Selon ce traité, les grandes îles, Corisco et Elobé, relèvent de l'autorité de la Guinée équatoriale. Le texte ne mentionne pas les trois îlots, mais au vu de la proximité avec Corisco, une dizaine de kilomètres environ, Malabo a toujours considéré qu'il lui appartenait. Quant au Gabon, il invoque un traité ultérieur, la convention de Bata, signée en 1974, qui, selon Libreville, lui conférerait la souveraineté sur ces îles. Problème, la Guinée équatoriale met en doute la légitimité de ce document, dont le Gabon n'a pu présenter qu'une photocopie non identifiée. Alors, après plusieurs médiations internationales, les deux pays ont fini par s'en remettre à la CIJ. La Cour devra décider quel texte juridique est valide, et non pas dire spécifiquement quelle nation détient la souveraineté sur ces îles.
Au Mali, les membres du Conseil national de transition, le CNT, étaient convoqués ce matin à 9h pour étudier le plan d'action gouvernemental 2025-2026 proposé par le Premier ministre de transition, le général Abdoulaye Maïga. Le vote du texte aura lieu plus tard dans la soirée, le CNT étant acquis aux autorités de transition. Son adoption ne devrait pas poser de problème. David Bachet, ce plan d'action prévoit notamment 24 000 recrutements dans les forces de défense et 19 heures d'électricité par jour.
C'est ça. 15 000 soldats et 9 000 agents des forces de sécurité devront être recrutés et des camps militaires seront construits dans 6 localités du sud et du centre du Mali. L'objectif est de renforcer la présence de l'État dans les zones à forte insécurité, précise la primature. Les délestages ont augmenté de manière exponentielle depuis le début de la transition, pénalisant fortement le quotidien et les activités économiques du pays. Pour y remédier, la construction de 4 centrales solaires et hydroélectriques est annoncée afin de fournir 19 heures d'électricité par jour, contre 6 actuellement. L'année dernière, les chantiers de 3 centrales solaires avaient déjà été lancés officiellement. La lutte contre la corruption et le renforcement de l'agriculture sont également parmi les priorités affichées. Côté élections, le plan d'action prévoit de poursuivre le processus de réforme de la législation. C'est dans ce cadre que toutes les organisations politiques du pays ont été dissoutes la semaine dernière. Objectif affiché, créer les conditions pour des élections transparentes et apaisées. Des élections qui ne sont donc pas au programme de ce plan d'action 2025-2026. Le Premier ministre de transition, le général Abdoulaye Maïga, a déjà précisé lors de la présentation de ce plan qu'avant toute élection, les dispositions politiques, sécuritaires et techniques idoines devraient être rassemblées.
Débat au Sénégal après la visite du Premier ministre Ousmane Sonko au Burkina Faso. Une visite de 2 jours à l'issue de laquelle les deux pays ont souligné l'importance d'un renforcement de leur coopération, notamment dans les domaines sécuritaires et économiques. Mais ce déplacement dans un pays dirigé par des putschistes qui ont rompu leur lien avec la CEDEAO, la communauté ouest-africaine, suscite des critiques à Dakar, Gwendal Lavina.
Certains dans la société civile et l'opposition sénégalaise craignent une légitimation totale des autorités burkinabées arrivées au pouvoir par un coup d'État. Yoro Dia, politologue et ancien porte-parole de la présidence sous Macky Sall, très critique du déplacement, parle même d'une erreur politique de la part du Premier ministre.
Nous sommes tous d'accord qu'il faut mutualiser les moyens, mais lutter contre le terrorisme, c'est commencer par avoir des pouvoirs légitimes. Il faut que le Sénégal tienne son rang et dise en toute fraternité aux États de l'AES que la seule solution aujourd'hui, c'est de retourner à la démocratie et que les peuples souverains décident de quelle orientation ils veulent donner de leur avenir.
L'exécutif et le PASTEF estiment que c'est justement en se rendant à Ouagadougou que les choses pourront avancer et pas en continuant à appliquer la politique d'isolement de la CEDEAO. Amadou Ba, député PASTEF.
Je pense que cette stratégie a montré ses limites. Le résultat en est, au final, que ces pays ont subi des sanctions qui n'ont produit aucun effet, autrement que désastreux sur la population. Maintenant, le Sénégal a toujours eu, et le président Bassirou Diomaye Faye l'a toujours dit, une attitude équilibrée et responsable. Pour qu'on trouve un calendrier de règlement, de résolution et d'alignement de ces pays vers les standards démocratiques.
Autre signe d'un rapprochement, la volonté d'organiser prochainement la 6e session de la Grande Commission Mixte de Coopération entre le Burkina Faso et le Sénégal. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
Il est midi 43 à Dakar.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, la junte guinéenne retire de nouveaux permis miniers. Et puis les sports du football, le Stade d'Abidjan est champion de Côte d'Ivoire. En plus bref temps, l'actualité africaine de ce lundi au Bénin, la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, se déclare incompétente dans le procès de l'ancien directeur général de la police, Philippe Houndé-Nyon. Le dossier est renvoyé en instruction. Poursuivi pour cyberharcèlement et incitation à la rébellion, l'ancien directeur de la police reste en détention pour la suite de la procédure. En Guinée, la junte au pouvoir poursuit sa reprise en main du secteur minier. La semaine dernière, les militaires avaient déjà retiré les permis d'exploitation de 2 sociétés. Samedi, ce sont des retraits de permis de recherche concernant plusieurs dizaines de compagnies qui ont été annoncées, Nathanaël Vitran.
L'annonce a été faite samedi soir à la télévision nationale par le ministre de la Communication en personne, Fana Souma.
Le ministre des Mines et de la Géologie arrête, article 1er, sont retirés et font gratuitement retour à l'État les périmètres couverts par les permis de recherche et d'autorisation d'exploitation de carrières permanentes suivants.
Pendant 45 longues minutes, le ministre lit ensuite la liste des entreprises concernées.
Société Ram Raz, substance or, Engineering Sarl, bauxite.
Avec ces mesures, le général Doumbouya, à la tête du pays depuis le coup d'État de septembre 2021, espère relancer l'exploitation des réserves d'or, de fer, de diamants et de bauxite présentes en quantité dans les sous-sols guinéens. Cité par l'AFP, l'ONG Action Mines Guinée, qui plaide pour une plus grande transparence dans l'exploitation des ressources naturelles, y voit une opération d'assainissement du cadastre qui doit permettre à moyen terme l'arrivée d'investisseurs sérieux, comprendre, dotés des capacités financières et des infrastructures permettant l'exploitation réelle de ces ressources. Pour la junte, c'est aussi un enjeu de communication, alors que les richesses naturelles de la Guinée n'ont jamais vraiment bénéficié à sa population, en raison notamment d'une corruption endémique.
Les sports du football, 56 ans après, nouveau sacre pour le Stade d'Abidjan. Le club emmené par le jeune entraîneur français Alexandre Lafitte est champion de Côte d'Ivoire. Il a battu le Lys Sassandra et a pu, après une saison exceptionnelle, célébrer son titre avec ses supporters. Reportage Youen Gourlet.
L'euphorie était totale hier au stade Champrou d'Abidjan. Après 56 ans d'attente, les yéyés ont exulté, chanté, dansé avec leurs supporters. Roger Assalé, ancien joueur des Young Boys de Berne, du Dijon FCO et du Werder Brême, était forcément heureux d'avoir signé au stade d'Abidjan l'été dernier.
C'est exceptionnel. Après 56 ans, voilà, il y a le titre. Et je pense que c'est quelque chose de fabuleux, d'extraordinaire. On ne peut que rendre grâce à Dieu. Voilà, la saison n'a pas été facile, mais voilà, on a cru, on s'est focalisé sur nos objectifs.
Sous une pluie diluvienne, le stade d'Abidjan n'a pas tremblé face au Lys Sassandra, déjà relégué en Ligue 2, malgré une pelouse détrempée qui n'a pas vraiment permis aux joueurs de jouer leur football habituel. Un nul suffisait, mais les joueurs d'Alexandre Lafitte l'ont emporté 3-0. Le plus jeune coach français du football professionnel mondial était lui aussi extatique.
C'est une émotion incroyable en vrai, parce que le chemin il est long. On va chercher la Ligue des Champions, on va chercher maintenant ce titre. On est sur une saison à 45 matchs. On n'est pas prédestiné à gagner, hein. faut pas se mentir. On n'a pas le même budget que la SEC Mimosa ou d'autres. Mais franchement, ce qu'on a vécu humainement et ce qu'on a fait, c'est exceptionnel.
L'histoire est belle pour les Yéyés qui étaient encore en Ligue 2 il y a 3 ans. L'entraîneur français a repris l'équipe il y a 2 ans et demi alors qu'elle était 16e. Elle avait terminé la saison 8e, puis celle d'après 2e, avant le titre cette année. Youen Gourlet, Abidjan, RFI.
En marge du Festival de Cannes et des compétitions, le marché du film propose près de 1500 projections de tous les cinémas du monde. Ce soir au pavillon Afrique de Cannes, un film documentaire tourné au Togo sera proposé, consacré aux croyances. Il est signé de l'égypto-sénégalais Gabriel Souleka Ouda Ibrahim.
Cet historien de formation qui vivait aux États-Unis a participé à l'écriture de plusieurs scénarios avant de réaliser son premier documentaire. Son œuvre, L'âme de l'Afrique, porte sur la spiritualité. Il pose une question essentielle, que pratiquaient les Africains avant l'arrivée du christianisme et de l'islam sur leur continent et comment ces deux grandes religions dominantes peuvent-elles coexister avec les traditions ancestrales et les divinités africaines ? Gabriel Souleika.
J'ai rencontré Maître Tété Wilson Baoun, c'est un Togolais, qui a créé le Festival des Divinités Noires. C'est pour entretenir la mémoire culturelle et cultuelle au Togo. Il a un panthéon de 41 divinités, la religion vaudou. Et en fait, en le rencontrant, j'ai trouvé l'occasion extraordinaire. J'ai pu aller filmer des rites initiatiques, parler avec des prêtres, ce qu'on appelle des Togbé, des Babalao. Et l'idée, c'était vraiment d'aller au cœur de la foi pour comprendre les convictions de chacun et encore une fois répondre à cette question, qu'est-ce qu'il y avait avant et comment on fait aujourd'hui pour vivre tous ensemble.
Ce film explore les racines profondes de la spiritualité africaine ainsi que son évolution à travers les siècles. Il met en lumière la résilience de ces traditions malgré les influences extérieures et interroge la place qu'elles occupent dans l'Afrique contemporaine. Houda Ibrahim, Cannes, RFI.
Il est 14h49 à Cannes. Anne Kantner, les grands titres de ce lundi 19 mai.
2 millions de personnes affamées à Gaza, déclaration du chef de l'OMS, alors que l'Agence des affaires humanitaires de l'ONU dit être en discussion avec Israël pour une reprise de l'aide humanitaire. Cela fait 80 jours que plus rien n'entre, ni eau, ni nourriture, ni carburant. Et les bombardements se poursuivent, 52 morts ce matin encore dans des frappes israéliennes qui s'ajoutent à une intervention au sol dont le but affiché par Benjamin Netanyahou est de prendre le contrôle de la bande de Gaza. Un coup de fil prévu aujourd'hui entre Donald Trump et Vladimir Poutine pour parler de la guerre en Ukraine. Le président américain vise un cessez-le-feu, répète qu'il faut mettre fin au massacre. Les Ukrainiens, eux, n'en attendent pas grand-chose. Et puis un accord gagnant-gagnant entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Cet accord vient régler un certain nombre de points de tension laissés en suspens au moment du Brexit, notamment les contrôles aux frontières ou encore les échanges étudiants. Voilà pour l'essentiel et tout de suite l'invité d'Afrique Midi.
Il y a un mois, les forces de soutien rapide, les milices qui affrontent depuis 2 ans l'armée soudanaise, s'emparaient du camp de déplacés de Zamzam, à quelques kilomètres de la ville d'El-Fasher, au Darfour. Des centaines de milliers de personnes qui y vivaient avaient alors pris la fuite. Quelle est aujourd'hui la situation dans ce camp et dans la région ? Antoine Gérard, coordinateur humanitaire adjoint des Nations Unies pour le Darfour, vient d'effectuer une mission sur place. Et il répond aux questions de Gaëlle Lalex.
Antoine Gérard, bonjour. Vous revenez du Darfour. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous y avez vu ?
Effectivement, j'ai passé une quinzaine de jours dans le nord du Darfour, pas très loin d'un site qui est assez connu malheureusement par les événements récents, qui est le camp de Zamzam. Et la raison de notre mission, c'est que le camp est devenu une base militaire des Rapid Support Forces et beaucoup de gens, 500, 600 000 personnes, ont fui. On a essayé, puisqu'on était à 30-40 km de Zamzam, d'y avoir accès. Malheureusement, pour des raisons de sécurité, mais aussi de négociation, on n'a pas pu le faire et ce n'était pas que les Nations Unies. On a discuté avec d'autres ONG internationales qui n'ont pas pu non plus avoir accès à Zamzam. Ce qu'on a entendu, c'est qu'il ne reste plus que 8 000, 10 000 personnes, des gens relativement vulnérables qui n'ont pas pu partir. Et aujourd'hui, l'assistance que l'on aurait pu mener est, pour ainsi dire, impossible, dû à ces problèmes de sécurité et d'accès sur le camp de Zamzam. Et donc, on travaille en périphérie, essentiellement à Tawila, qui est une ville qui n'était pas prête pour accueillir 200, 300 000 personnes sur une période de 15 jours, 3 semaines.
Où sont passés ? Que sont devenus les 500 000 déplacés de Zamzam aujourd'hui ?
Donc certains sont à Tawila, d'autres ont préféré aller sur la ville de Fasher, de El-Fasher, qui est une ville où il y avait déjà à peu près 1 500 000 personnes, et ces nouveaux déplacés dans la ville vivent dans la rue, d'après les témoignages que l'on a reçus des ONG nationales qui sont encore sur place. Et d'autres ont décidé d'aller au-delà de cette ville de Tawila et de prendre la route même de l'exil à travers l'ouest donc du Soudan, à travers le Darfour. Certains deviendront des réfugiés au Tchad, là où nous avons déjà à peu près 600 000 réfugiés, si ce n'est plus, dû à ce conflit qui perdure depuis 2 ans.
Comment se déplacent les gens ? Il y a combien de kilomètres entre Zamzam et le Tchad ?
Alors, en fait, quand on est au Darfour, on compte plutôt en moyenne de locomotion plutôt que kilomètres, parce que les kilomètres, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que ça dépend de ce que vous avez comme moyens. Certaines familles, au début, avaient encore les moyens de pouvoir être sur des camions. Les camions, en fait, de l'assistance humanitaire qui repartaient à vide, repartaient avec des familles. D'autres ont des ânes. Un voyage de camion, ça va prendre 3-4 jours jusqu'à la frontière tchadienne, mais avec des ânes, ça prendra 2-3 semaines, et d'autres sont à pied à côté des ânes, donc c'est un mois de voyage, avec pour nous un dilemme, c'est-à-dire que comment apporter un soutien humanitaire à des personnes en déplacement.
Et ces routes sont-elles sûres ?
Ce ne sont pas des routes sûres. C'est-à-dire que les gens qui sont sortis du camp de Zamzam sont partis la nuit. Ils ont essayé de fuir les combats, mais aussi, pour certains et pour certaines, ils ont subi les violences, que ce soit des violences sexuelles ou d'autres. Il y a des recrutements forcés de jeunes garçons par les forces de la réponse rapide. Et du coup, il y a des stratèges qui sont mis en place pour essayer d'éviter de tomber dans les checkpoints de ces forces. Un des stratèges, c'est de déguiser les jeunes garçons en filles, mais maintenant, malheureusement, les forces ou ceux qui sont affiliés aux forces déshabillent les uns et les autres sur la route. On a eu des témoignages à Tawila qui sont assez dramatiques sur la façon dont les gens ont fui les combats, sont arrivés à Tawila ou plus à l'intérieur de Jabal Marin.
Aujourd'hui, pour les acteurs humanitaires, quels sont les défis ?
Ils sont nombreux. D'abord, répondre aussi rapidement à ce mouvement massif de population sur Tawila de 250 000, 300 000 personnes et sur d'autres localités, c'est pas évident d'avoir toutes les capacités. Il y a des problèmes de financement de ces ONG nationales et internationales. Ça se passe dans le contexte des diminutions drastiques de la part des Américains, mais également d'autres bailleurs de fonds, de leur contribution à l'assistance humanitaire. Et puis, des questions de capacité. C'est-à-dire que les gens qui étaient à Tawila étaient sur des programme un petit peu plus établi sur les déplacés qu'il y avait depuis 2 ans ou d'autres depuis plus longtemps. Et subitement, il faut redoubler de capacité devant un nombre incroyable de personnes qui sont arrivées assez rapidement sur cette ville.
Antoine Gérard, coordinateur humanitaire adjoint des Nations Unies pour le Darfour. Invité de Gaël Lalex, cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet Grand Invité Afrique. Direction Garoua, à présent, la capitale du Nord Cameroun abrite depuis 1935 sur la Bénouée un port fluvial qui permet notamment le transport de marchandises vers le Nigeria. Ce port pourrait être une véritable plateforme de commerce pour les pays de la région qui n'ont pas d'accès à la mer. Cependant, la vétusté des infrastructures est un frein et le projet de réhabilitation officiellement lancé en 2021 par le président Paul Biya peine à avancer. À Garoua, le reportage de l'envoyé spécial de RFI, Charlotte Cossé.
Sur le quai, des manutentionnaires déchargent d'énormes sacs de graines de coton de plus de 60 kilos et les empilent sur une pirogue à moteur. Aladji Issa est le commerçant à l'origine de cette cargaison.
C'est plus avantageux. Par voie fluviale, je peux transporter de plus grosses quantités et en matière de sécurité, c'est mieux. Par la route, il y a beaucoup de tracasseries et ce n'est pas aussi fluide.
Mais cet exportateur fait figure d'exception en cette fin de saison sèche. Abassi Ben est le régisseur du port fluvial de Garoua.
Dieu merci, aujourd'hui quand même il y a un semblant d'activité. C'est pas tous les jours, surtout en saison sèche. Parce que ça fait pratiquement 3 semaines de non-activité. En saison sèche, le port est quasiment, pour ne pas dire mort, mais l'activité est vraiment au ralenti.
Les infrastructures du port sont vétustes, aucune grue ou équipement pour le déchargement. Le régisseur espère beaucoup des projets qui entourent la réhabilitation du port.
C'est notre espoir et que si et seulement si ce projet de réhabilitation a eu lieu, vraiment ça sera un bienfait. Le droit de douane, le droit de quai et tout ce que cela comporte, ça doit rebousser d'abord les recettes de la ville et de l'État camerounais aussi. Et pourquoi pas, ça doit aussi faire en sorte que nos businessmen, leurs activités doivent être vraiment très fluides. C'est pas seulement les businessmen du Cameroun, du Nigeria, du Tchad et aussi de la Centrafrique.
En saison des pluies, le Nord Cameroun est majoritairement approvisionné grâce au Nigeria voisin.
Ce qui vient du Nigeria, on a les denrées alimentaires, c'est-à-dire les cartons, des biscuits, des jus et consorts, et aussi les produits de construction, les carreaux, le ciment, tout. Sans le Nigeria, à dire vrai, le Nord Cameroun n'existerait pas.
La réhabilitation du port est également vivement souhaitée par la communauté urbaine qui est en charge de sa gestion. Noivuna Akassou, deuxième adjoint au maire de la ville de Garoua.
Il faut draguer le port, il y a trop de ça, il faut le draguer. Les études de faisabilité ont été faites, elles sont déjà bouclées. On est l'expertise du directeur de port de Douala qui est venu. Les études ont été menées. On attend maintenant le financement.
Le coût des travaux a été évalué en 2022 à 16 milliards de francs CFA, soit plus de 24 millions d'euros. Charlotte Cossé, de retour de Garoua, RFI.
Et c'est à Garoua que se referme cette demi-heure africaine. Réalisée, préparée avec Laurent Chaffard, Mickaël Goncalves et Cécile Périllard. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
À demain, Nicolas Sûr. Vous restez avec nous dans un peu plus d'une minute maintenant. Le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Deux autres options, vous le savez. Une demi-heure d'information en full day ou bien en portugais selon votre zone d'écoute. À tout de suite.
Vous souhaitez réécouter ce journal ? Rendez-vous sur Internet. www.rfi.fr.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
arthrose, arthrite, rhumatisme, comment prendre soin de ses articulations?
Mercredi,
la rougeole, une maladie très contagieuse et évitable grâce au vaccin.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Viva Technologies, le plus grand événement start-up et tech en Europe, revient du 11 au 14 juin à Paris, porte de Versailles. C'est le lieu où les discussions se concrétisent, les opportunités business se créent et les partenariats prennent vie. Viva Technologies, vibrez au rythme de l'innovation. Plus d'informations sur vivatech.com. en partenariat avec France Média Monde. Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker.
Je vous retrouve deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, dans l'Afroclub, terrain incontournable des musiques afro-urbaines d'Afrique et de ses diasporas. Deux fois plus de groove, une séquence rétro indispensable et en prime, une vidéo des tendances de la semaine à voir sur RFI Musique et tous nos réseaux sociaux.
Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker, tous les mardis et jeudis dans Afrique Soir.